Bon, voilà. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
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 Devaya. Srila Prabhupada ki,
Jai.
jai, allez, allez, bon. Ma journée est un peu bousculée aujourd'hui, là. Bon, alors voilà. Alors, on est à la page 182, ligne 20. La fièvre matérielle. Virginie, est-ce que tu voudrais lire? Non, pas Virginie, Ananda.
D'accord.
Avec plaisir, Hare Krishna. La fièvre matérielle, l'envie de tout contrôler, de se sentir maître de toute situation, ou du moins de s'en sentir avoir droit, est très forte. C'est une fièvre qui n'épargne personne en ce monde, et il n'est pas très intelligent de se contenter d'observer les autres qui sont aux prises avec. Nous devons savoir que nous aussi sommes pris avec. Tant que ce sera comme ça, du point de vue védique, nous serons des proies de l'énergie matérielle, sans cesse sujets aux provocations et tentations, comme si ces dernières n'étaient pas suffisantes. C'est ce qu'on pourrait appeler le goût de gagner, de vaincre, individuellement ou collectivement. La preuve? Il ne suffit que de trouver des moments où nous nous sentons tellement interpellés par certaines situations en termes de dualité que nous nous sentons sortir de nos gonds et nous apprêtons à nous mettre sur nos plus beaux grands chevaux. Pour quelles raisons? Domination, insistance, frustration ou contestation de point de vue, mais avec tellement un goût d'amertume au cœur pour le moindre sentiment de défaite ou de résistance rencontré lors d'une intervention en question. Avec le recul, une fois la colère apaisée, on peut se remettre à voir clair et peut-être réfléchir soit à réparer les pots cassés en cherchant moyen de s'excuser, soit à défaut de mieux, passer l'éponge et tolérer toute offense en vue de conserver malgré tout une relation jugée tout de même bonne ou inestimable avec la personne qui nous aura valu flammèche et étincelle surtout, dans le fond, pour cause de gros faux égos respectifs aussi mal vus qu'inattendus. Pareille situation est fréquente en l'âge de discorde entre proches, entre amis, etc. Rares et chères sont les relations tissées de tolérance aux besoins qui réussissent à tenir la route malgré les hauts, les heurts et les épreuves de la vie. C'est parfois une forme de miséricorde de la Providence de pouvoir faire preuve de retenue en ayant su s'apercevoir d'avance jusqu'à quelle bassesse l'on pourrait aller pour l'amour de dominer telle ou telle situation. C'est ce qu'on appelle se dégrader. Tel est le propre des Adhira, des personnes qui ne sont pas capables de faire montre de maîtrise de soi. Le contraire est le propre des Dhira, des personnes imperturbables. Comment peuvent-elles être aussi imperturbables? Parce que leur conscience est vraiment absorbée à servir les pieds parés lotus de Krishna sur le plan spirituel, au niveau de l'âme, au-delà du niveau du mental seulement. Le mental peut être sujet aux agitations de toutes sortes, mais pas pour celui à conscience d'être une âme. Ce qui suit est un extrait d'une classe de Srila Prabhupada sur la Bhagavad Gita 2.12 en date du 17 novembre 1972 à Hyderabad.
Merci, Hare Krishna.
Hare Krishna.
Omagyana Timirandasya Giranjana Sanakaya Chaksurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires sur ce qu'on a lu? Alors, ça décrit une situation où deux personnes, qu'elles soient amies ou pas amies, pour l'amour de dominer, sont prêtes à tout faire pour dominer une situation ou dominer une autre personne. Et ça, c'est fréquent dans l'âge de Kali. Et c'est fréquent entre personnes qui agissent par faux égos et qui se prennent pour quelqu'un d'autre. Alors, c'est très loin de la conscience de Krishna quand c'est comme ça. Et ça, on peut l'écrire. Et penser qu'on a compris. Mais jusqu'où va la limite, justement, d'avoir compris ces genres de situations-là, si soi-même, on n'a pas compris qu'il faut pas tomber dans ce genre de panneau-là. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires?
Si on a compris, on n'a plus rien à dire. On est abandonné à la volonté de Krishna.
Oui. Et malheureusement, ce genre de conditionnement-là, ça peut arriver même entre des dévots. Et spécialement des dévots qui pensent qu'ils ont des responsabilités spirituelles, mais qui veulent quand même, à travers ça, appliquer le même pattern. C'est juste que c'est plus subtil, c'est plus, parfois ça peut être flagrant aussi, et ça veut dire que quelqu'un est pas si avancé spirituellement que ça. Est-ce que ça fait du sens ce que je dis là? Parce qu'il y a des dévots, il y a des situations que, disons, le phénomène, comment ça se passe, comment ça arrive à ce point-là? On peut dire que c'est expliqué dans la Bhagavad Gita au chapitre 2, verset 62. Où ce verset-là de la Bhagavad Gita dit, en contemplant les objets des sens, une personne va développer de l'attachement. Et de l'attachement, si l'attachement est frustré, la personne va tomber en colère. Et lorsque la colère est là, l'intelligence se perd. Et lorsque l'intelligence est perdue, on retombe au niveau matériel. Alors, même si quelqu'un est un dévot de Krishna, s'il contemple quelque chose, puis que quelqu'un ou quelque chose est une entrave à ce qu'il a contemplé, et il est attaché à la chose, automatiquement, la colère va arriver. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça?
Oui. Ça, parce qu'en fait, être dévot ne veut pas dire être parfait dans toutes les situations. Les dévots ont aussi des faiblesses, et c'est là où justement il faut travailler pour s'améliorer, en fait.
Exactement. Et alors, c'est pourquoi dans la conscience de Krishna, c'est recommandé de s'associer avec des dévots qui sont plus avancés que soi. Et les dévots qui sont plus avancés que soi, que faut-il dire si c'est en fait des âmes réalisées, des purs dévots de Krishna? Ben, ils sont libérés de cette colère, de cette convoitise. Et c'est le genre d'association qu'on a besoin. Qui peut nous servir d'exemple. Alors, évidemment, la théorie, c'est une chose, mais avoir l'expérience de la personne en personne. Vous comprenez ce que je veux dire? La personne en personne, ça n'a pas de prix. Parce qu'on peut voir par son exemple. Et donc, si on écoute des classes de Srila Prabhupada, des fois, certaines personnes dans un auditoire, quand Prabhupada faisait des classes ou des conférences, certaines personnes étaient vraiment, on peut dire, dans une certaine mesure, agacées ou en colère de ce qu'ils avaient entendu de Prabhupada et voulaient envoyer une réplique à Prabhupada qui, justement, dans laquelle réplique, il y avait de la colère de leur part. Et Srila Prabhupada ne se montrait pas nécessairement en colère. Mais pour certaines personnes, j'ai déjà écouté une classe de Prabhupada, disons en Inde, et il y avait quelqu'un qui faisait des commentaires à Prabhupada assez agressifs. Et Prabhupada, comme on dit en québécois, ne l'a pas manqué. Lui aussi, il a été très, très vif dans ses commentaires. Et qu'est-ce qui fait la différence entre une personne ordinaire qui va s'énerver, mettons, et un pur dévot qui semble faire preuve d'une certaine agressivité dans ses propos? Qu'est-ce qui fait la différence?
Un le prend personnel et l'autre est détaché de ça.
Ça, c'est une chose. Mais il y a plus que ça. Plus loin que ça. On peut prendre pour acquis, oui, mais disons, c'est le premier pas dans la démarche.
Le maître va justement, par ce biais-là, instruire le dévot, en quelque sorte.
Oui. Et s'il instruit le dévot, c'est un signe de...
Mais c'est Krishna qui intervient, en fait.
Oui, Krishna intervient à travers son dévot, ça c'est bien. Et supposons j'ai fait quelque chose et je suis le Prabhupada, me fait des réprimandes. C'est signe de quoi?
D'amour.
C'est ce que j'allais dire, d'amour.
Oui, mais faut mettre le doigt dessus, là.
Le maître spirituel?
Non, le fait d'avoir une réprimande, mettons, d'un maître spirituel.
Mais c'est une grâce, en fait. Ça nous
c'est
permet
une
de...
grâce, oui.
C'est pour nous mettre le chemin, le bon chemin.
Oui.
On tourne autour, mais...
c'est la compassion.
Ouais.
Alors, le maître spirituel ou n'importe quel pur dévot ont toujours cette attitude de compassion. Tu peux pas séparer un pur dévot ou n'importe quel dévot, en fait, qui est moindrement assez avancé spirituellement. Tu peux pas enlever la compassion de son cœur. C'est impossible. Alors, par compassion, ses gestes ou ses paroles, il y a toujours de la compassion. Alors, par contre, si on prend le même exemple, si quelqu'un fait quelque chose de stupide, vraiment une erreur, et il y a personne qui dit quoi que ce soit, pas même le maître spirituel, ça veut dire quoi, ça?
Il va rester dans l'erreur tout le temps sans personne qui l'aide.
C'est ça. Ça veut dire il a pas reçu de compassion de quelqu'un. C'est pas pour son bien qu'il y ait un silence, disons, qu'il n'est pas confronté à regarder ses erreurs et chercher à se corriger par la suite si il a cette volonté-là. Alors, c'est un sujet délicat et des dévots doivent arriver à un moment donné à passer par ce chemin-là parce qu'on ne peut pas prendre pour acquis, comme ils disent, la colère est bien mauvaise conseillère. Alors, on peut pas prendre une habitude ou disons, continuer d'avoir une habitude que quand quelque chose ou une circonstance ne fait pas notre affaire, on va exprimer notre mécontentement par de la colère. Alors, dans la vie matérielle, c'est courant à tous les jours, c'est comme ça. Pourquoi les gens jurent, par exemple, pour exprimer leur frustration, leur colère, mais ça, disons, jurer dans la conscience de Krishna, ça n'a pas sa place. Quoique, des fois, un dévot peut sembler jurer, mais au lieu de, il va dire, oh, Hare Krishna, donc, ou quelque chose, il va essayer de relater ça avec Krishna pour avoir un bénéfice spirituel. Dans son action de jurer, mais c'est quand même pas une bonne habitude, une mauvaise habitude. Alors, vaut mieux, si on a juré, vaut mieux jurer dans son fort intérieur et ne pas embêter autrui avec ça et essayer d'être conscient de Krishna. Alors, d'une façon, ouais, est-ce qu'il y a? Excusez-moi.
Sage, mon rêve va venir dans 10 minutes. Vous êtes sur le taux, vous êtes ici, donnez accès au tempo.
Prends ma clé. Une minute. Juste un moment, s'il vous plaît. J'ai une interruption. Juste un petit moment. Une minute. Ah, ma clé. Ma clé. Juste un moment où je m'absente. Une minute, s'il vous plaît.
Il est quelle heure chez toi, Madame Ananda, là?
À ce moment, il doit être 8h20.
Ah, donc on a 2 heures de différence.
T'es où?
Moi, je suis en Guadeloupe.
Guadeloupe, c'est plus vers l'est.
La Caraïbe, petites Antilles, en bas.
Mais c'est plus vers l'est parce qu'à Montréal, on a 1 heure de différence.
Non, oui.
Alors, t'es plus à l'est, oui, ils changent pas l'heure.
Non, moi je suis. Et puis Ananda, elle a changé aussi. Elle est plus à Montréal.
Où aller?
Ah ben, elle va le dire.
Je suis au Nouveau-Brunswick.
Alors, là-bas, on a 2 heures de différence.
Ouais, c'est Atlantique, donc c'est 2 heures.
OK, alors, t'es en dessous de Ananda.
Ouais, sauf que maintenant, vu que eux, ils avaient 2 heures, mais maintenant ils ont plus qu'une heure en fait.
Ben, Montréal, c'est 1 heure.
Ça a toujours été 1 heure.
Pour
Pour nous, maintenant, là,
non,
pendant
pour moi.
l'hiver, on a la même heure, en fait.
Avec qui?
Elle et moi. Ananda et moi. Non,
Vous avez 1 heure de différence.
on a la même heure parce qu'elle,
Maintenant.
elle change pas d'heure.
OK. La même
Mais
chose
quand...
ici.
Ouais, c'est ça, ouais. Ah, cette histoire-là de changer d'heure. Hein.
Ici, à l'année longue, à 6h15, c'est nuit. Garanti, tout le temps, tout le temps. On voit le soleil bouger, par exemple, quand il monte dans le nord, on le voit. Là-bas, c'est l'été, ici, c'est l'hiver. Puis l'hiver est devant ma face, là. Il est vraiment comme dans l'équateur, presque, là.
Ah ouais.
Wow.
Quelle expérience, la vie, hein?
Mmh.
Très intéressant.
Et tu arrives à associer d'avoir des dévots autour de toi, là où tu es?
Aucun.
Personne.
Personne.
Il n'y a pas d'ISKCON ni rien là-bas?
Il y a un dévot que j'ai rencontré, ça fait plusieurs mois passés, à Managua, qui est à environ 4 heures d'ici.
Ok. Ouais, donc.
Allô?
Allez, Christian.
Allez,
Mais bon,
Krishna.
m'excuse, ça c'est un imprévu. Quelqu'un qui, un fournisseur qui vient, puis c'était pas appelé pour dernier. Alors, voilà.
C'est les petites choses de la vie.
Ouais, c'est ça. Ah, mais la beauté de la chose, c'est que je ne me suis pas fâché.
Ben, c'est la base, en fait. On vient d'en parler, en plus.
Exactement. Ah, voilà, les surprises de la vie.
Mais se fâcher, c'est d'embarquer dans le monde de dualité. Dans le monde divin, c'est de la contemplation. Dans la dualité, bah, t'es content, t'es pas content. Alors.
Exact. Ouais, c'est en plein ça. Krishna dit dans Bhagavad Gita, Arjuna, de transcender les dualités, transcender les trois gunas de la nature matérielle. Et puis il dit même de vaincre la convoitise, qui est justement cet ennemi destructeur de la réalisation spirituelle. Il dit de vaincre aussi les forces de la colère. Il y a un verset aussi qui dit, celui qui est capable de justement tolérer les influences de la colère, de la convoitise, est digne de libération. Alors, donc, il peut être libéré de ça. Alors, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires? OK, on va continuer. Alors, Virginie, est-ce que tu veux lire, s'il vous plaît? Virginie, est-ce que tu
Pardon, je
veux?
croyais que j'avais remis le son, excusez-moi. On était à quelle ligne?
Là, tu as la page 183,
Oui,
ligne 4.
c'est ça. Ce qui suit est un extrait d'une classe de Srila Prabhupada sur la Bhagavad Gita 2.12 en date du 17 novembre 1972 à Hyderabad. Srila Prabhupada, ainsi en ce qui concerne les signes de la vie et l'éternité, les êtres vivants et Dieu, Krishna, ne font qu'un. Mais la différence est que Eko Bahunam Vidadati Kaman, celui-là, le chef, bien qu'il soit éternel et qu'il soit une force vivante comme nous le sommes, mais il est le chef, il maintient tous les autres, c'est la version. Nityo Nityanam Chetanas Chetanam Nam Eko Bahunam Yovida dati kamam tam atmas tam ye nupashyanti jivas deshyam shanti sasvati netareshyam Katha-Upanishad 2.2.13. C'est la version de la Katha-Upanishad Nityo Nityanam. Il est l'éternel suprême parmi tous les autres éternels. Chetanas Chetanam Chetananam, il est la force vivante suprême parmi toutes les autres forces vivantes. Ekobaunam Yovadadati Kaman, cet unique nombre singulier. Eka, il fournit, maintient toutes les autres entités vivantes. Tam Atma Stam, il est aussi dans le cœur de chacun. Ishvara Sarva Bhutanam, Rigde Deshe Arjuna Tishtati, Bhagavad Gita 18.61. Tam Atma Stam, Ye Nupashyanti Dira, quiconque peut percevoir sa présence, Dira, très savant ou très doux, Dira, Dira signifie qui n'est pas perturbé. Il est appelé Dhira. D'autres sont appelés Adhira. Adhira signifie ceux qui sont perturbés. Ceux qui vivent dans le monde matériel sont toujours perturbés et ceux qui se trouvent sur la plateforme spirituelle sont des Dhira. Dhira, Dhira. Il est dit à propos des Goswamis.
Sauf le sanskrit, s'il te plaît.
Celui qui se trouve dans la position transcendantale est un Dhira, un poète. Le poète Kalidasa a décrit Dhira signifie que même en présence de provocation, celui qui n'est pas perturbé, il est appelé Dhira. Il a décrit le Seigneur Shiva. Lorsque le Seigneur Shiva était vénéré par Parvati, le Seigneur Shiva était nu et Parvati vénérait le Shiva Linga. Mais il ne s'est pas agité. C'est pourquoi Kali Dasha a décrit un dhira, dhira, celui qui n'est pas. La première perturbation est de nature sexuelle. Ainsi, quiconque, bien qu'il soit en possession de tous ses moyens, n'est pas perturbé par les pulsions sexuelles est appelé dhira. En fait, c'est ce qu'on appelle un brahmachari. Le brahmachari n'est pas impuissant. Il peut se marier, il peut avoir des enfants, mais il se retient. Il est tellement maître de lui-même qu'il n'est pas perturbé. S'il ne désire pas avoir de relations sexuelles et engendrer des enfants, il n'est pas perturbé. C'est ce que l'on appelle le dhira. Ce n'est pas qu'à la seule vue d'une femme ou d'un homme qu'il y ait perturbation. Lui ou elle sont alors adhira. Donc, dhira, jana, piyo, piyakoro, Nyamatsaro, les Goswamis étaient tous aussi respectables pour les dhiras que pour les adhiras. Ainsi, un maître spirituel, un Goswami, doit être également miséricordieux envers les dhiras et les adhiras. Sinon, il ne peut pas devenir prédicateur. Le prédicateur doit rencontrer tant d'âmes déchues. S'il est perturbé, il ne peut donc pas prêcher. C'est pourquoi le dhira. Ce mot est ici Anupashyanti Tam Atma Stam Ye Anupashyanti Dhira. Il est appelé Dhira. Sans être Dhira, vous ne pouvez pas percevoir la présence de Dieu, la personne suprême dans votre cœur, parce que Dieu est là en tant que Param Atma. Mais il faut devenir Dhira sans être troublé. Alors vous pouvez comprendre. Voici Krishna à l'intérieur de mon cœur.
Saute le sanskrit.
Ce dhira est possible lorsque nous développons l'amour pour Krishna. Nous devenons alors dhira. Sinon, ce n'est pas possible. Sinon, nous serons perturbés. Premajana, Churita, Bhakti, Viloche, Vilochanena. Et comment pouvons-nous voir Dieu? Pas avec ses yeux. Ses yeux. Mais il doit y avoir un onguent. C'est ce qu'on appelle préma. Tout comme une mère voit son enfant, même s'il n'est pas très beau, très beau, parce elle a de l'amour pour l'enfant. Les autres voient l'enfant comme n'étant pas très beau. La mère, par amour extatique, voit l'enfant très beau. De même, si nous n'avons pas développé notre amour pour Krishna, nous ne pouvons pas voir Dieu, la personne suprême, dans notre cœur. Et pas seulement dans notre cœur, partout.
Sont les
Ce dhira
sanskrit. Oui.
est possible lorsque nous développons l'amour pour Krishna. Nous devenons alors dhira, sinon ce n'est pas possible, sinon nous serons perturbés. Premanjana, Churita, Bhakti, Vilochanena, et comment pouvons-nous voir Dieu? Pas avec ses yeux. Ses yeux, mais il doit y avoir un onguent. C'est ce que l'on appelle préma. Tout comme une mère. On l'a déjà lu, ça, non?
On est déjà venu, continue.
Elle a de l'amour, les autres voient l'enfant. De même, nous n'avons pas développé notre amour pour Krishna. Nous ne pouvons pas voir Dieu, la personne suprême, dans notre cœur, pas seulement dans notre cœur, partout. Un bon dévot doit toujours tenter de garder son sang-froid. Le mot tenter relève au niveau mental, relève du niveau mental. Et si de tel n'est pas toujours le cas, et si tel n'est pas toujours le cas, un dévot sait fort bien qu'après tout, tout est question d'être suffisamment conscient de Krishna en correction à toute situation ayant mal tourné du point de vue de la maîtrise de soi, ce qui sous-entend automatiquement la conscience de Krishna pour réussir en matière de maîtrise de soi. Et ainsi, la page peut être tournée avant la prochaine mise au test ou prochaine épreuve. Appelez cela comme vous voulez. Tournez la page pour un certain temps seulement, car il faut se poser la question. Est-ce vraiment aussi facile et suffisant que de penser que ce n'est qu'une simple question de conscience de Krishna? La réponse au niveau absolu est oui. Mais se croire être un bon dévot n'est pas suffisant pour que Maya le laisse tranquille. Maya est si forte qu'elle profitera de la moindre faiblesse de cœur moindrement insoumis, déficient en termes de conscience de Krishna, et ce, même si quelqu'un se pense un bon dévot, un bon yogi, un bon prêtre, une bonne sœur, etc. Et une situation problématique surviendra à nouveau. Et le prix d'un manque de conscience de Krishna, laissant place à la fièvre matérielle, peut être compromettant, voire périlleux. Une allumette a le potentiel de déclencher un feu de forêt. Ce n'est pas le nombre d'exemples qui manque, mais passons là-dessus. Quand est-ce qu'il ne peut plus y avoir de manque de conscience de Krishna, avec comme sous-entendu de manque de maîtrise de soi? Quand il y a pleine réalisation du soi, réalisation de l'âme immuable dans sa relation d'amour avec Krishna. La conscience de Krishna inclut un aspect impersonnel, prescription et interdiction, et personnel, l'amour du cœur pour Krishna que personne ne peut vivre artificiellement. Tel est le côté le plus intime d'une personne, sa relation avec Dieu. À nouveau la question. Quand est-ce qu'il ne peut plus y avoir de manque de conscience de Krishna, avec comme sous-entendu de manque de maîtrise de soi? Autre explication. Tel que Krishna avise Arjuna de fixer son attention sur le soi, Bhagavad Gita 2.45, mais cette attention ne peut être passive non plus, ou que théorique, elle se doit d'être active. Et comme l'âme est active de nature, il lui faut, pour être consciente de Krishna à 100%, être aussi activement engagée à 100% dans un service de dévotion connecté à Krishna par le biais de la succession disciplique. Effectivement, on se connecte à Krishna par le biais de son représentant, un pur bhakta, un maître spirituel. Ainsi, l'âme devenue disciple doit s'engager en pensée, paroles et actions, guidées par les instructions reçues de son maître spirituel. Un tel engagement la protège des ennemis formidables que sont la concupiscence et la colère. La concupiscence est fonction, l'amour de Krishna, passé à l'oubli de Krishna. La concupiscence, la conscience de Krishna signifie aller dans le sens contraire de la convoitise et de la colère. Tâche impossible sans développement d'un goût supérieur ressenti en s'affairant sur la voie de la bhakti. Telle est la seule solution. Seul l'amour de Dieu peut résoudre tous les problèmes liés à l'oubli de Dieu. La pratique de la conscience de Krishna marque le retour à la santé spirituelle, état entièrement félicieux une fois parvenu à son comble. Arjuna était devenu perturbé par la situation sur le champ de bataille de Kurukshetra. Le tout rentra dans l'ordre pour Arjuna dès qu'il s'abandonna sans réserve à Krishna. Il se soumit entièrement à Krishna comme disciple. Il accepta Krishna comme son maître spirituel. Bhagavad Gita 2.7. Une défaillance mesquine m'a fait perdre mon sang-froid et me rend confus quant à mon devoir. Indique-moi donc précisément la meilleure voie à suivre. Je suis à présent ton disciple et m'en remets entièrement à toi. Veuille m'instruire, je t'en prie. Telle est la disposition d'âme par excellence d'une âme soumise à Krishna. En entendant, dans notre cas, d'être 100% conscient de Krishna, il faut chercher un digne représentant de Krishna et s'abandonner à 100% à ses instructions sans duplicité. Accepter un maître spirituel sous-entend mettre un terme au doute créé par et dans le mental. Le doute est un vrai calvaire. Mais un maître spirituel authentique, tout comme Krishna, a pouvoir d'éliminer tout doute chez un disciple.
Jai, merci beaucoup.
Bref.
Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires?
Ouf, c'était dense.
Assez chargé, merci.
C'est dense, ouais.
Ouais, c'est dense. Mais tôt ou tard, il faut qu'un dévot passe par ce chemin-là. Alors, c'est la, comment on peut dire? La conclusion, c'est qu'il n'y a pas Il n'y a pas d'espoir d'être heureux sans la bhakti. Et il faut laisser tout ce qui n'est pas bhakti et progresser spirituellement par la grâce d'un maître spirituel authentique. Et c'est ça, c'est la solution. Alors, comme Srila Prabhupada disait, chantez Hare Krishna et votre vie sera sublime. Et c'est en plein ça qui va arriver si on suit les instructions d'un pur dévot comme Srila Prabhupada. Et voilà. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? OK. On va continuer. Madame Ananda, un petit bout? Page 186.
On t'entend pas.
Une minute, faut que je mette
Le
la
son.
page.
Tu as coupé le son. C'est page 186, ligne 25.
Ouais.
C'est à la fin de Bhagavad Gita, c'est ça?
C'est ça, c'est ça.
Krishna demande à Arjuna, au fils de Prat, conquérant des richesses,
Fils de Prita, Prita.
Prita, conquérant des richesses, as-tu tout bien écouté avec attention? Ton ignorance et tes illusions sont-elles à présent dissipées? Tu en as reporté, le Seigneur agit en tant que maître spirituel d'Arjuna. Son devoir lui commande donc s'enquérir si son disciple a bien saisi tous les messages de la Bhagavad Gita. Le Seigneur se tient près de lui,
Prêt à lui expliquer.
après de lui, à lui expliquer de nouveau n'importe quel point énoncé ou même au besoin, l'entière Bhagavad Gita. En fait, quiconque reçoit la Bhagavad Gita des lèvres d'un maître spirituel authentique, que ce soit Krishna en personne ou son représentant, voit se dissiper toute son ignorance. La Bhagavad Gita n'est pas un livre ordinaire, l'œuvre d'un poète ou d'un romancier. C'est Dieu, la personne suprême, qui l'énonce. Quiconque est assez fortuné pour en recevoir l'enseignement de la bouche de Krishna ou de son représentant authentique est assuré de se voir libéré et d'échapper aussi aux ténèbres de l'ignorance.
Jai, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Alors,
On voit bien la compassion de Krishna qui est prêt à recommencer si c'est pas bien clair, en fait.
oui, exactement.
C'est ça qui, moi, ça m'a beaucoup plu, quoi. C'est-à-dire que bon, c'est pas compris, et ben, on recommence. C'est pas grave. Allez, on y va encore.
Ouais, ça c'est de la compassion, pas à peu
Ah ouais.
près,
Ah.
hein. C'est vraiment, disons, un exemple de voir comment Krishna, ça nous tient à cœur que tout le monde comprenne la conscience de Krishna. Et évidemment, Arjuna, c'est la personne qui sert d'exemple pour toutes les autres personnes en fait, pour toute l'humanité. Si Arjuna ne comprend pas, pratiquement parlant, c'est toute l'humanité qui va pas comprendre. Alors, et Krishna veut que l'humanité comprenne le message de la Bhagavad Gita. Alors, Krishna ne va pas, comment on peut dire, faire que l'opportunité d'écouter la Bhagavad Gita tombe à l'eau, quitte à recommencer, pour justement que la Bhagavad Gita soit bel et bien comprise par l'humanité, parce que l'humanité, malheureusement, est le trois quarts du temps, pour ne pas dire plus, est toujours dans le champ, toujours à côté de la plaque, comme on peut dire. Alors, ça prend Krishna et le représentant de Krishna qui explique, disons, davantage la Bhagavad Gita, comme chez le Prabhupada, dans des teneurs et portées. Parce que la Bhagavad Gita, c'est pas une question juste de l'apprendre par cœur, les versets, puis penser qu'on a fini avec la Bhagavad Gita, loin de là. Apprendre des versets par cœur, c'est fait pour être médité dessus. Et que Krishna nous inspire par ces versets appris par cœur pour qu'on soit conscient de Krishna le plus possible. C'est la grâce de Krishna qu'on soit capable, comme Krishna dit, je suis situé dans le cœur de chacun. De moi vient la connaissance, l'oubli, le souvenir. Alors, si quelqu'un est vraiment sincère et il peut apprendre des versets et apprendre par cœur des passages de Bhagavad Gita, mais ça prend la grâce de Krishna pour faire ça, parce que Krishna donne la connaissance et l'oubli, le souvenir. Alors, faut être conscient de ça et toujours être dans l'esprit de service de dévotion offert à Krishna. Apprendre des versets par cœur, est-ce que c'est une question de montrer à tout le monde qu'on est capable d'apprendre des choses? Non, c'est pas ça le but. Ça, c'est juste, mettons, un produit dérivé, parce que si on apprend quelque chose par cœur, il faut bien finir, faut qu'effectivement on le sache par cœur. Mais c'est pas le but comme tel. Ça, c'est un moyen pour être conscient de Krishna, pour utiliser cette érudition, si on peut dire, qu'on a, mais au service de Krishna. Et comme n'importe quoi dans la conscience de Krishna, ça devrait être fait avec humilité. Et c'est ça qu'il en est. Et comme Krishna dit dans la Bhagavad Gita, l'humilité, c'est le premier symptôme de la connaissance, parce qu'il y a plusieurs critères qui sont les éléments pour acquérir la connaissance, mais le premier, c'est l'humilité. Alors, savoir qui on est, qu'on est très, très, très petit. L'exemple est donné, la comparaison est donnée entre une pépite d'or et une mine d'or. La pépite d'or et la mine d'or sont tous les deux de l'or. Mais il y a une différence énorme entre la quantité d'or dans la pépite et la quantité d'or qui est dans la mine d'or. Alors, la pépite d'or est comparée aux êtres vivants qui sont des fragments de Krishna. Et la mine d'or est comparée à Krishna, qui est infini, par comparaison. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires? Oui.
Juste sur de qu'est-ce qu'on vient de parler, la Bhagavad Gita, c'est le livre qui nous montre comment changer notre, ben, je vais le dire dans mes mots, puis j'essaie de notre fréquence, notre état d'être. Ça veut dire que elle nous enseigne, comme vous dites, ça vient de, oui, ça sert à quelque chose, mais c'est pas le but d'apprendre des choses par cœur. Le but, c'est de comprendre les choses, non? C'est de comprendre. C'est comme de nous apprendre comment changer notre fréquence. C'est juste un exemple. J'essaie de l'expliquer. L'amour, c'est un état. Alors, quand on est en amour, notre parole, notre façon de bouger, on voit, c'est l'amour. Allô, comment ça va? Tout c'est agréable. Comme la haine ou en vouloir, c'est un état aussi, c'est une fréquence. Alors, on est que, ouais, qu'est-ce que tu veux, là, ok, ça. Alors, on devient. Alors, la Bhagavad Gita, c'est vraiment la façon de changer notre état de voir ce monde. C'est tout te mettre la fréquence exactement le nom de rien avoir, c'est pas, rien nous appartient, c'est un état d'esprit, tu sais, c'est, la possession, c'est un état d'esprit, rien avoir, c'est un état d'esprit. Alors, c'est vraiment tout pour travailler, trouver la clé dans tous les enseignements dedans pour ouvrir la porte de la contemplation de sa la manifestation divine et non de le monde de dualité. C'est ça un peu la Bhagavad Gita, non?
Un peu beaucoup, merci. Oui, t'as tout à fait raison, là, t'as des bons points. C'est Bhagavad Gita, c'est être conscient de Krishna, puis avoir la vision que Krishna veut que l'on ait par rapport à tout ce qui existe. Reconnaître Krishna comme la source de tout ce qui existe. Alors, comme Krishna dit, il y a un verset dans la Bhagavad Gita, chapitre 7, verset 19, où Krishna décrit que ceux qui sont en connaissance reconnaissent que Krishna est la source, est la cause de toutes les causes, qu'il est la source de tout ce qui est. C'est dans la Bhagavad Gita. Et ainsi, il s'engage dans le service de dévotion. Alors, c'est très important. Savoir qui on est, quelle est notre relation avec le tout complet. Le tout complet, c'est Krishna. Et comme Prabhupada décrit dans les Ishopanishads, le tout complet a un aspect impersonnel, mais s'il est vraiment complet, il a un aspect aussi qui est personnel. Et ça, c'est inconcevable que tout soit situé à l'intérieur de la personne suprême originelle, puis que tout vient de cette personne-là. C'est inconcevable pour notre petite logique humaine. Mais les Shastras, les Écritures, disent « Janma Dhyasya Yataha », la vérité absolue, c'est de qui tout émane. Alors, il faut l'accepter, et puis c'est ce qui va conduire un dévot justement à s'abandonner complètement à Krishna, parce qu'il sait « Je fais partie du tout complet ». En tant que partie et parcelle du tout complet, c'est mon devoir de m'engager au service du tout complet. Puis ce tout complet-là, ben c'est Krishna. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires?
Je veux juste ajouter un petit quelque chose.
Oui.
Alors, dépendant de notre sincérité dans l'action qu'on apprend à travers la Bhagavad Gita, le mot de la Bhagavad Gita va changer plusieurs fois. Au début, on veut essayer, on n'est pas sincère encore, mais on est curieux. Alors, on comprend la Bhagavad Gita d'une façon. Et plus on avance avec des informations sur Krishna, plus on vient attirer et plus on devient encore plus sincère à comprendre. Et le mot rechange encore. C'est le même livre, mais toutes les fois que nous, notre conscience change, la Bhagavad Gita change pour nous faire évoluer le même livre.
Oui, c'est comme la traduction de Bhagavad Gita, c'est le chant du bienheureux. Alors, le bienheureux, c'est Krishna. Et bienheureux, ça veut dire Ananda, la félicité. Krishna est toujours dans l'Ananda, il est toujours dans la félicité. Il n'y a aucune régression pour Krishna. Sa nature est immuable. Alors lui, Krishna, est toujours bienheureux. Il ne peut pas être altéré dans cette béatitude-là. C'est la position de Krishna.
C'est notre ignorance qui l'altère.
Oui, c'est dû au manque de connaissance, au manque de conscience. Tu sais, si on peut dire dans une certaine mesure, OK? Je dis ça, la nuance est dans une certaine mesure, d'accord? Alors, si vous vous mettez dans les chaussures de Krishna, puis on sait que Krishna est conscient de tout. La moindre petite chose dans les coins et raccoins de l'univers, il est conscient de tout. Alors, comment voulez-vous que cette personne-là soit affectée comme nous, on peut être affecté par les hauts et les bas de la vie? Il a une explication pour tout. Il peut tout expliquer. Il connaît tout, il comprend tout. Alors, sa position est inégalable par quelque entité vivante que ce soit. Excusez-moi. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires?
Je peux continuer?
Oui.
Alors, le Krishna, il est tout, il est détaché, il est non-jugement, il est généreux. Ça, c'est, disons, les états qu'on voit Krishna. Alors, pour comprendre Krishna, il faut se mettre sur sa fréquence. Il serait détaché, non-jugement et tout ça. Alors, c'est nous à changer notre fréquence de perception de ce monde.
Oui, mais en même temps, on ne peut pas être, on peut pas être au même niveau que Krishna. On peut juste être à notre niveau, à nous, qui est très limité, qui est très petit. Et on peut pas. Donc, l'exemple que Prabhupada donne, c'est l'exemple de la grenouille qui essaye de comprendre l'océan. Alors, la grenouille, elle dit, elle se gonfle. Puis elle dit, est-ce que elle parle à quelqu'un d'autre là? Puis elle dit, est-ce que l'océan est deux fois plus gros que moi? L'autre dit non. Elle se gonfle encore. Est-ce que l'océan est plus gros que moi? Non. Elle se gonfle, elle se gonfle, elle se gonfle jusqu'au point qu'elle éclate. Alors, on est limité. On peut avoir juste une petite connaissance. Et cette connaissance-là nous est permise par la grâce de Krishna. Alors, on est très, 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 très petit. Alors, c'est pourquoi un dévot de Krishna n'est pas impressionné par qui que ce soit. Dans la Bhagavad Gita, Krishna dit, Srila Prabhupada dit, puis ça, je pense qu'on l'a lu il n'y a pas si longtemps que ça, qu'un dévot de Krishna n'est même pas impressionné, même par le Seigneur Brahma. La position, le titre. Évidemment qu'un dévot de Krishna, c'est une théorie jusqu'à un certain point. Et dans la pratico-pratique, quand un dévot est en présence d'un dévot qui est plus avancé que lui, ou d'un pur dévot, c'est sûr qu'il va être impressionné. C'est pas aussi coupé au couteau et impersonnel que ça peut sembler l'être. Alors, en présence d'un pur dévot, des dévots néophytes vont se précipiter et essayer d'en apprendre le plus possible de cette âme réalisée-là. Alors, comme par exemple dans la Bible, c'est dit, là où allait Jésus, il était toujours accompagné d'un paquet de monde qui voulait sa compagnie. Alors, c'est la même chose quand Prabhupada venait en quelque part. C'était tous les temples locaux. Les dévots venaient. Ils voulaient profiter de l'association de Srila Prabhupada. Et Prabhupada, ben, c'était unique au monde. Disons, les dévots, par exemple, quand Prabhupada venait en France, disons, le GBC, choisissait combien de dévots allaient être avec Prabhupada le lendemain matin pour la promenade matinale de Srila Prabhupada. Il pouvait pas y avoir 100 dévots ou 200 dévots à cette promenade matinale. Il allait y avoir peut-être 3, 4, 5, 6 dévots, 7, 8 peut-être, mais pas grand-chose de plus que ça. Alors, c'était des dévots qui étaient choisis par un président de temple ou un GBC à qui lequel GBC donne l'opportunité à tel ou tel. Chacun son tour. Chacun avait une opportunité, mais c'était pas tout le monde qui avait cette opportunité-là. Et si quelqu'un avait cette opportunité-là, ben, il pouvait s'estimer être très, très, très chanceux. Ben, ça arrive vraiment pas souvent, ça arrive pas dans la vie de tous les jours, ces choses-là. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires?
Je peux rajouter quelque chose d'autre.
Ouais.
Désolé. Alors,
Ouais.
la Bhagavad Gita nous enseigne, dans le fond, qu'on ne peut rien changer des choses autour de nous, mais juste comment on les voit, notre perception. Alors, elle travaille sur notre conscience, comment on analyse, comment on voit les choses. C'est tout ce qu'on peut faire. C'est changer notre perception dans tout. On peut rien changer, veut dire, si quelqu'un a un accident, je peux pas changer, mais je peux changer comment je l'analyse, je le vois ou je juge.
Oui, mais bon, donc la question peut être posée. Sur quoi est-ce qu'on nous avons un certain contrôle?
Dans ma tête, je contrôle ma perception. Avec l'intelligence que Krishna m'a donnée, avec l'expérience de la vie, avec les efforts que je fais pour apprendre. Alors, tout ça va changer ma perception, mon jugement sur les choses que je vois.
La maîtrise
Ouais.
des sens, la maîtrise du mental, c'est notre, nous en tant qu'âme, c'est là nos axes où on peut jouer dessus. C'est au niveau des sens et au niveau du mental.
Mais c'est que on peut seulement, à l'extérieur, on peut rien vraiment pas changer, même pas une feuille qui bouge, mais
Pas changer.
on peut changer de la façon qu'on le voit.
Ton comportement.
Moi, le comportement,
Ta
la
maîtrise des sens et la maîtrise de ton mental, comme il a été dit tout à l'heure, quand un homme ou une femme voit un autre homme ou une autre femme, faut avoir les yeux qu'il faut pour voir l'âme et non pas voir un corps qui attire et donc concupiscence, etc., etc., quoi.
Mais ça, c'est
C'est
dû avec toute la connaissance qu'on apprend, avec la connaissance. Si on est ignorant, on va agir comme un ignorant. Alors, plus notre connaissance spirituelle ou notre conscience augmente, et plus, je veux dire, on change de perception. Comparé à quelqu'un qui n'a aucune conscience spirituelle, et l'autre, la réaction va être totalement à part d'un de l'autre. Ils vont réagir totalement à part. Un va
Ouais.
être peut-être.
C'est ça, mais notre seul pouvoir, c'est nos axes d'action, donc les sens et nos axes de pensée, le mental. Et c'est
Mais les sens
là-dessus,
sont
justement.
contrôlés par nos désirs.
Oui, mais si tes désirs sont tournés vers le service de dévotion, donc automatiquement, tu vas purifier tes sens.
Oui.
Il faut faire attention dans tout ça, là. Que, mettons, dire, il y a blanc, il y a noir. Il y a blanc, il y a noir. Ou, si vous le voulez, on le met à l'envers. Il y a noir, puis il y a blanc. Il y a noir, puis il y a blanc. Mais l'ingrédient que ça prend pour justement voir les choses, disons, d'une façon consciente de Krishna, ça prend la grâce de Krishna et du maître spirituel.
Respirituel.
Si pour une raison ou pour une autre, on dit, ah, maintenant, moi, je suis parvenu, j'ai la vision.
Non, ça marche pas, ça.
C'est sûr qu'on va tomber.
C'est contre-productif.
Alors, il faut toujours être conscient qu'on dépend complètement de la miséricorde de Krishna. Comme Prabhupada dit, la miséricorde combinée de Krishna et du maître spirituel. C'est comme nous, on est comme un petit enfant qui doit tenir la main de son parent pour être dans une bonne position, sans crainte. Parce qu'un enfant, mettons, les parents laissent l'enfant aller où ce qu'il veut, s'en occupe pas. C'est une question de temps avec cet enfant-là, soit vraiment dans le trouble. Sinon qu'il meure. Si l'enfant est laissé à lui-même, là, il n'a pas l'intelligence pour vraiment voir les choses qui sont dangereuses pour lui. Alors, ça prend la grâce de Krishna dans tout. Tout ce qu'on fait, on doit toujours être conscient qu'on est complètement dépendant de la miséricorde de Krishna. C'est comme Krishna dit, lis dans le cœur, donne l'intelligence. Et dans le Srimad Bhagavatam, il y a un verset qui parle justement de l'intelligence comme étant la direction que donne l'âme suprême dans ce que nous faisons. Alors, là, quelqu'un peut dire, ben, jusqu'à quel point c'est vrai? Ben, le point, c'est que c'est vrai, oui, dans la mesure où quelqu'un est complètement abandonné à Krishna. C'est Krishna qui agit à travers lui. Et proportionnellement, ben, quelqu'un sera le serviteur de l'énergie matérielle s'il n'est pas abandonné au service de Krishna. Et là, ben, ça revient au tourne en rond, à savoir, ben, serviteur des sens, serviteur de la convoitise, de la colère, au lieu d'être serviteur de Krishna. Alors, comme on a lu tantôt, et comme Virginie le soulignait, lorsqu'on voit un homme ou une femme, il y a une façon de voir. Il y a une façon spirituelle, puis une façon qui est vraiment matérielle, qui est au niveau matériel. Alors, pour les matérialistes, c'est le niveau matériel qui passe en premier. Mais pour un spiritualiste, c'est pas ça, là. Alors, ça demande, disons, un niveau de réalisation spirituelle. Et ça passe par le chemin du service de dévotion, de la conscience de Krishna, la grâce de Krishna, la grâce du maître spirituel et l'humilité. La conscience de Krishna demande beaucoup d'humilité pour être et demeurer conscient de Krishna. Est-ce qu'il y a des questions, des commentaires?
Alors, l'humilité, c'est que le je doit pas prendre de la place dans notre façon de voir les choses. Parce que dans le je, c'est l'ego, moi, tu sais qui je suis. Alors, c'est de l'ego, ça. S'abandonner à Krishna, il y a vraiment pas de je. On est serviteur, on est esclave de sa volonté.
Oui, c'est ça. Mais il y a un je pareil. Le je,
Oui, mais
c'est
c'était le petit je.
je
C'est pour le
suis l'éternel serviteur de Krishna. C'est tout ce que je suis.
C'est ça, le jeu conscient.
Je ne serai jamais rien d'autre que ça. Alors, c'est dans ma nature profonde et immuable que je ne suis rien d'autre qu'un serviteur. Alors, soit je sers Krishna et j'en suis conscient, ou je ne sers pas Krishna, puis je sers d'autres choses. Comme Prabhupada dit, il donne un exemple en anglais. Either you're servant of God or you're servant of dog. C'est un ou l'autre. Alors, et c'est ça. On est soit un serviteur de Dieu ou serviteur d'un animal quelconque, là. Et non, vaut mieux être serviteur de Dieu, serviteur de Krishna. OK, on va continuer. À moins qu'il y ait d'autres questions ou commentaires. OK, on va continuer. Ananda?
Oui, ligne 41, c'est ça?
Oui.
Ok, parfait. Et Arjuna de répondre au verset suivant. Bhagavad Gita 18.73. Arjuna dit, Ô cher Krishna, toi qui es infaillible, mon illusion s'est maintenant évanouie. J'ai, par ta grâce, recouvré la mémoire. Me voici résolu, libéré du doute et prêt à agir selon ta volonté. Teneur et portée. Par essence, en vertu de sa condition inhérente, l'être représenté ici par Arjuna doit agir selon les directives du Seigneur suprême. Il est dans sa nature de se discipliner. Chaitanya Mahaprabhu enseigna que la véritable position de l'être vivant est celle du serviteur éternel de Dieu. Quand il oublie cette vérité, il se voit conditionné par la nature matérielle, alors que lorsqu'il sert Dieu, il connaît la libération, tout en demeurant serviteur. Par nature, l'être vivant est destiné à servir. Il devra donc soit servir Maya, l'illusion, soit Krishna, le Seigneur. S'il sert le Seigneur, il vivra dans sa condition normale. Mais s'il choisit de servir l'énergie externe, l'énergie illusoire, il demeurera captif de la matière. Lorsqu'il est sous l'emprise de l'illusion, l'être est toujours occupé à servir, mais dans le cadre du monde matériel. Bien qu'il soit enchaîné par sa concupiscence et ses désirs, il continue pourtant à se croire le maître du monde. C'est ce qu'on appelle...
Un moment, téléphone.
Allô? Oui. Pardon? OK. Bon, mais dis amen, M. Morin est là. OK. Bon, mais il faut ouvrir la porte à M. Morin. OK. Parfait. Merci. Bonjour. Bye-bye. Oui. OK. Bye. Au revoir.
Bon. OK. On va finir ce paragraphe-là et puis après, on va finir le cours.
Parfait. Donc, bien qu'il soit enchaîné par sa concupiscence et ses désirs, il continue pourtant à se croire le maître du monde. C'est ce qu'on appelle l'illusion. Lorsque l'être est libéré, son illusion se dissipe et il s'abandonne volontairement à l'être suprême pour agir selon ses désirs. La dernière illusion, le dernier piège que Maya tend à l'être, consiste à lui faire croire qu'il est Dieu. L'être croit alors vraiment qu'il n'est plus une âme conditionnée, mais bien Dieu en personne. Sa sottise est si grande qu'il ne se demande pas même comment lui, qui est Dieu, a pu être sujet au doute. Une telle pensée n'effleure même pas son esprit. Aussi dit-on qu'il agit là du dernier piège de l'illusion. En vérité, s'affranchir de l'énergie illusoire, c'est comprendre Krishna, Dieu, la personne suprême, et accepter d'agir en se conformant à sa volonté.
Jai, merci
Jai.
Beaucoup.
Hare Krishna.
Alors, on va finir le cours maintenant. Est-ce qu'il y a questions, commentaires? On va reprendre ça la semaine prochaine, le prochain cours, cette teneur est portée là.
Parfait.
Et on a couvert beaucoup de points aujourd'hui. Et, je trouve ça vraiment bien.
Oui.
Alors, merci beaucoup.
Merci, voilà,
je m'occupe de quelque chose là, à la maison. Il y a un fournisseur là, qui est
bon
arrivé.
Courage.
Merci beaucoup à tout le monde. Allez,
Krishna.
Allez, Krishna. Merci beaucoup.
À mercredi.
Allez, Jai.
Jai.
Voilà. Voilà. So...